Culture et société.
Anaïs Gertin-Lacroix est avec nous. Anaïs, bonjour.
Bonjour, mon Benoît.
Bon, ça marche, oui. Mais moi, après l'émission, là, je vais aller envoyer quelque chose au Chaînon. Je pense que c'est tous des endroits là dont il faut se rappeler pendant le temps des fêtes, là, où c'est vraiment des moments là où je pense qu'on peut partager là, nous, les privilégiés.
Ben exactement. Puis comme on se disait hier, on a parlé de guignoler des médias. Avant ça, c'était Dr Julien Le Chaînon. Tu sais, c'est là qu'on voit à quel point on a besoin d'aide. Hein, tu sais, puis on trouve qu'on s'en sort bien au Québec, là, mais il y a vraiment quand même un manque qui est flagrant. Donc c'est ça, pouvoir donner quand c'est possible, évidemment, c'est la chose à faire, surtout au mois de décembre.
Et pourquoi tu veux parler de Gad Elmaleh?
Ben là, c'est pour ça que je t'ai dit bonjour, mon Benoît, parce que là, les Québécois, faut croire qu'on parle tous avec une grosse patate dans la bouche ou la gueule, comme on dirait. Écoute, là, j'ai mal à mon Québécois, Benoît, comme ça, aucun mot de sens. Une émission française qui se nomme Le meilleur pâtissier, d'accord? Et on a fait appel à Gad Elmaleh pour interpréter un Québécois de souche. Et dans la description de cette émission-là, OK, c'est « Au pays des caribous ». Mercotte, qui est une blogueuse culinaire française très connue, est tombée en amour avec de la belle blouse des bûcherons québécois. Elle a donc décidé de se rendre au Canada en demandant au candidat de faire un séquoia carotté, qui est notre gâteau traditionnel. As-tu déjà mangé un séquoia carotté?
Pas à ma connaissance.
J'ai jamais mangé ça de ma sainte vie. Et là, dans cette émission-là, on nous vend le séquoia carotté, là, comme si nous, c'était le gâteau par excellence. Et ça termine dans la description, toujours, juste avant le clip que je vais vous faire entendre. Autant vous dire que ça s'est pas fait en criant lapin. Et là, entre parenthèses, écrivent en claquant des doigts. Ah, ah, ah. Benoît. Juste ça, là. Écoute, je me disais.
Excuse-moi, Anaïs, la première question que j'ai, là, c'est le numéro de qui que Gad Elmaleh a volé ou a piqué?
Oh, il y en avait plusieurs au Québec, avant, entre autres, Martin Petit, son spectacle.
Non, mais pour ce segment-là, là, il a plagié qui, cette fois-ci?
Ben, personne, cette fois-ci, je te dirais.
Oh, je suis sûr qu'on va trouver. Je suis sûr qu'on va trouver.
Mais écoute ça, OK? Et là, je vous mets en contexte, le Gad Elmaleh a une chemise à carreaux. Là, on voit des ratons laveurs, on voit des marmottes. Écoutez la musique, allez écouter, là, vraiment, là, puis de mettre de l'avant le froid polaire du nord canadien. T'es comme si ça... Voyons que vous avez encore cette image-là de nous. Alors voilà, je te fais entendre ce qu'il dit à l'émission. Et c'était pas une parodie, là. Je veux dire, c'était vraiment le voici, le voilà. On a fait appel à Gad Elmaleh qui parle si bien québécois.
Le séquoia carotté. Carotté car il a des carreaux comme ma chemise qui est carottée. Ami pâtissier puis pâtissière, j'ai ma petite dessin. Ce conseil que l'espiègle Mercotte s'est bien gardé de transcrire dans sa recette, écoutez bien, une ganache noire, il vous faudra pour le collage. Je répète, une ganache noire. Je n'en dis
Moi, je l'ai jamais trouvé drôle, Gad Elmaleh. Puis en plus, t'apprends qu'il a plagié des numéros à travers le monde, dont certains Québécois.
Ben oui, puis écoute, ça a été long avant qu'il l'assume, hein. On va s'en rappeler de ça, là, puis qu'il l'avoue en fait là, devant les caméras.
Tu constates pourquoi, là? Parce qu'il n'y a pas de talent.
Gad Elmaleh, mais qu'est-ce que c'est ça? Le collage, puis j'ai de la difficulté, une chance que c'est écrit en dessous, là, à comprendre, tu sais, puis je me dis, ben qu'est-ce que c'est ça? Là, on a vraiment l'air, encore une fois, d'une gang de bûcherons qui parlent avec, est pas capable d'articuler deux secondes, puis du collage, puis de la ganache, puis
Mais au moins, si c'était, tu sais, s'il l'avait, ça serait drôle. Moi, j'ai pas de problème, est-ce qu'on se moque de l'accent québécois, là? C'est pas grave, on se moque de l'accent, ben, en tout cas, à une époque, on avait le droit de le faire. Là, aujourd'hui, c'est devenu raciste puis c'est woke. Mais tu sais, qu'on se moque de l'accent québécois, moi, ça me trouble pas.
Il se moque pas, Benoît.
Mais fais-le comme du monde, par exemple. Là.
C'est ça, mais dans l'émission, c'est pas présenté. L'humoriste, tu sais, c'est pas un sketch drôle, tu comprends? Il vient vraiment au même titre que si t'écoutes les chefs et un chef exemple, là, un Achille qui a son accent français, viendra à l'émission parlant de bon, on va faire des baguettes aujourd'hui avec son accent français vraiment pour nous faire vivre le moment. Mais c'est pas. On n'était pas du tout dans l'humour.
Vas-y donc, Achille, fais-nous donc ça. Aujourd'hui, on fait des baguettes. En vrai, fais-nous ton meilleur accent français. Là.
Aujourd'hui, on fait des baguettes.
Merci, Achille. C'est ça.
C'est ça.
Ça se résume à ça. Mais le Gad Elmaleh est même pas foutu de le faire comme du monde. Fait que,
ben, bon. Ben, c'est ça. Mais c'est une mauvaise idée, là. Puis là, le setup de la chemise à carreaux, au moins que le casse de poêle, là.
Ouais, mais
je sais pas toi, là, mais.
Ben, c'est ça que j'ai aujourd'hui. J'ai une chemise à carreaux, puis j'ai mis mon casse de poêle numéro 22 comme moumoute.
Oh, ton 22?
Ouais,
c'est
mon 22.
Ça. Je préfère le 23, personnellement, non. Mais le 22, ça passe.
Mais quand il y a du vent, je mets la 22, elle colle plus.
Ah, c'est ça.
Casse-noisette, il y a des problèmes avec casse-noisette.
Casse-noisette qui est jugé raciste, imagine-toi. Ballet de Tchaïkovski qui, bon, il y a des danses, notamment Benoît, au deuxième acte du ballet. Ça se nomme Le Royaume des Délices. Et dans la portion du Royaume des Délices, il y a plusieurs nationalités qui sont présentées à travers des mets. Okay? Donc là, on va danser. Il y a une danse espagnole, on voit du chocolat. Il y a une danse arabe, on y voit du café avec, bon, des hommes qui dansent avec des femmes qui sortent de leur harem. Ensuite, au niveau des danses chinoises, il y a du thé, danse russe. On va du trépac. Donc là, tout ça, c'est jugé très caricatural. Là, dans les médias, certains sont sortis à Berlin disant, écoutez, la problématique, ce n'est pas Tchaïkovski en soi, mais c'est plutôt la chorégraphie qui a été créée par Marius Petipa en 1892. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a décidé de retirer littéralement Casse-Noisette. Donc, il y a certains endroits où on est allé modifier les danses pour que ce soit un peu moins caricatural, alors qu'au Staatsballet de Berlin, on a juste retirer le casse-noisette de la programmation cet hiver, alors que depuis que le monde est monde, casse-noisette joue et ce à chaque année. Et ça part d'où ça? En fait, c'est Chloé Anaïs Lopez-Gomez. Okay? Benoît, c'est une danseuse de peau noire qui est sortie il y a quelques temps de ça. Elle avait passé son audition pour le Staatsballet. Elle a été engagée et le lendemain, la maîtresse de classe est sortie disant qu'elle, personnellement, n'aurait jamais engagé une femme à la peau noire, disant que ça venait gâcher l'esthétique de Casse-Noisette. Ça s'est retrouvé dans les médias dans le temps de le dire. Évidemment, Staatsballet a été sous les feux, sous les projecteurs. Ils se sont excusés. Ont donné 16 000 euros en compensation à la danseuse et ils sont sortis disant, on vous promet vraiment qu'on va faire un examen oui de conscience. On va également regarder toutes les productions que nous vous offrons pour s'assurer qu'il n'y ait rien qui vienne froisser les gens.
Et ça, c'est correct, ça. Ça, c'est correct, là. Qu'une directrice dise à une danseuse noire, de quelque couleur que ce soit, que ça va gâcher. Ça, c'est épais.
C'est épais sur le moyen terme. Mais je t'explique, ça part d'où? Okay. Qu'est-ce qui s'est passé pour que.
Mais là, on ça a dérapé.
Okay, soudainement, casse-noisette, ça passe plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment ça, entre autres. C'est avec la danseuse qui a eu qui s'est fait dire littéralement que vu qu'elle était noire, elle pouvait pas danser. Donc, on a décidé de retirer casse-noisette. Et là, il y a une des violonistes, entre autres, une sino-canadienne, Zhang Zhang, elle qui est sortie disant, écoutez, là, casse-noisette, c'est même joué en Chine, tu comprends? Donc là, il y a des limites à maner. Là, évidemment, c'est pas comme ça qu'elle l'a dit, mais des limites toujours à parler de cancel culture puis de revisiter les œuvres. Ça ne fonctionne pas. Elle dit, même en Chine, on accepte de voir casse-noisette. Il y a comme des choses qui doivent rester telles quelles. Et ça passe plus ou moins, là, un casse-noisette jugé raciste.
Et une casse-noisette, eux autres. Avant qu'on se quitte, un mot sur Alec Baldwin?
Ben là, Alec Baldwin, est-ce que j'ai le temps de te faire entendre un extrait?
Vas-y.
Ah, OK. Ben là, Achille, je ne sais pas si tu l'as près de toi.
Oui.
Hier, Alec Baldwin, c'était la rencontre, évidemment, son entrevue, où il s'est ouvert, en fait, sur ce qui s'est passé sur le plateau de tournage. Et il a raconté, Benoît, qu'est-ce qui s'est passé avec l'arme à feu. La question que tout le monde se posait, hein, pourquoi est-ce qu'il a tiré? Pourquoi il y avait une balle? Je te fais entendre, évidemment, c'est en anglais, on va traduire après. Il a expliqué vraiment les quelques secondes avant que la balle soit tirée, qu'est-ce qui s'est produit?
We kept doing this, and it was so that I said to her, now in this scene, I'm going to cock the gun. I said, do you want to see that? And she said, yes. So I take the gun, and I start to cock the gun. I'm not going to pull the trigger. I said, do you see that? She goes, well, just cheat it down and tilt it down a little bit like that. And I cock the gun. I go, can you see that? Can you see that? Can you see that? And she says, and then I let go of the hammer of the gun, and the gun goes off.
Donc, il explique, Benoît, Alina Hutchins, qui est cette femme qui est décédée. Tout d'abord, hier, on a vu un Alec Baldwin démoli, qui a pleuré. Là, la grosse musique, on aurait pu, honnêtement, là, le montage, là, des limites à mettre ça dramatique à fond. Là, on aurait pu lui laisser juste parler sans toujours vouloir que ce soit plus dramatique encore. Mm-hmm. Et ce qu'il a raconté, c'est que lui était sur le plateau. On lui a donné l'arme. On lui a dit, soit dit en passant, que c'était un arme qui n'était pas chargée. Donc, lui et Alina Hutchins, les deux étaient persuadés que l'arme n'était pas chargée. Et là, pendant la pause, Alina, qui était derrière la caméra, voulait voir les plans. Donc, c'est elle qui disait à Alec Baldwin, place l'arme comme ci, place l'arme comme ça. Et là, lui a appuyé sur une gâchette, mais il a pas parti l'arme. Il a juste, je connais pas exactement comment ça fonctionne, les fusils, mais il avait le fusil dans ses mains et pointait en direction de la caméra, qui était à la demande d'Alicia, Alina Hutchins. Et c'est par la suite, lorsqu'il a lâché l'arme, que là, la balle est partie. Et c'est pour ça que la balle a été lancée directement dans la direction de cette femme-là qui est décédée, mais lui...
Il était en dialogue avec elle pour l'angle de
l'arme. Il était en dialogue.
L'arme.
Les deux pratiquaient la scène qui allait être tournée tout de suite après la pause lunch. Tu comprends? Puis là, lui, il dit, je pourrais m'enlever la vie si je pensais que c'est vraiment de ma faute. T'sais. Puis il est revenu disant, écoutez, t'sais, je n'ai pas tiré, je n'ai pas appuyé sur la gâchette, je ne pensais pas que l'arme était chargée. On lui a posé des questions aussi, à savoir, écoute, t'es un producteur, t'as deux chapeaux, évidemment, comédien, acteur et producteur. Et là, lui a expliqué aussi que oui, il produit, mais lui s'occupait surtout de tout ce qui était au niveau du casting. Il dit, au niveau d'engager vraiment les armuriers, tout ça, c'était dans une autre branche. Donc, il disait, Manon, on n'a pas le choix aussi de faire confiance. Moi, on m'a dit, l'arme n'est pas chargée. Ben, l'arme n'est pas chargée. Et les deux, on travaillait. Et pouf, c'est parti en direction. Et Alina est décédée. Donc, c'est comme d'une tragédie. Ça n'a aucun sens.
Ça aurait pu frapper la caméra. Ça aurait pu frapper, tu sais, il aurait pu la tirer, tu sais, une blessure plus légère, mais tu sais, de la tuer, c'est une série d'accidents. Mais il y a quelqu'un quelque part qui a mis une véritable balle dans ce gun-là.
Ben oui, puis on attend encore de savoir exactement ce qui va se passer, comme cette semaine ce qui était sorti, que ce serait un autre armurier qui s'était fait donner des vraies balles artisanales, puis ça serait retrouvé dans le tas de balles. Ensuite, on a l'armurière qui est sortie disant, effectivement, je n'avais pas vérifié l'arme. Donc, c'est sûr, puis Alec Baldwin, c'est ça qu'il dit hier, il y a des gens qui sont responsables, mais je sais foncièrement que ce n'est pas moi. Tu sais, parce que là, tout le monde disait, comme on a parlé, le nom de Alina a pris le bord, là, c'était juste Alec Baldwin a tué quelqu'un, tu sais, puis j'avoue que ça aussi, c'est violent voir ça partout dans les médias. Là. Donc, c'était vraiment, je te dirais, tout un moment de télé assez bouleversant hier avec Baldwin qui était pas fort, honnêtement.
Oui, très bien. Écoute, on se laisse là-dessus. Bonne fin de semaine, Anaïs. On se reparle.
Bonne fin de semaine à toi aussi. Bye, bye.
Bye.